Et toi, Charline, du coup
Alors, moi, c'est Charline. Est-ce qu'on m'entend?
Oui.
Ça fonctionne? Ok. Et mes pronoms, c'est donc elle.
C'est moi? Ah oui, pardon. Est-ce que tu peux, bon, pour commencer un peu doucement cette petite entrevue, nous parler de comment est-ce que tu es venue l'idée de base, de ton, avant le livre, de ton compte Instagram, du coup la page Orgasme et moi.
En quelques mots. Là là. je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement avec des parents médecins, et en particulier une maman gynéco-obstétricienne, pour qui le sujet était très présent à la maison. Mes parents étaient séparés et mes souvenirs d'enfance étaient marqués par des dîners un peu spéciaux où ma mère rentrait du cabinet comme elle avait personne d'autre à qui raconter ses journées. Les enfants, faut que je vous raconte. Alors aujourd'hui, patiente de 38 ans avec tel et tel antécédent, elle a tel et tel symptôme. Bon, qu'est-ce qu'on doit prescrire comme examen médical ? Alors, ça a été mon enfance. Ça ressemblait plus à un internat gynéco qu'à une enfance normale. Mais je pense que ma mère, en fait, a semé des choses importantes qui relèvent d'abord de son engagement auprès des femmes et personnes minorisées, mais auprès également du droit des femmes, en fait. Et elle me disait, tu te rends compte, les personnes viennent chez moi en disant, je viens vous voir, docteur, parce qu'on m'a dit que vous étiez douce. Et tu vois, ça fait quand même déjà, ça plante des petites graines importantes. Alors ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, j'ai 21 ans en 2004 et je pars vivre à San Francisco où je découvre que je suis une personne incroyablement normale et que ça s'appelle être bi ou pan, ce que je suis. Et j'ai enfin, je prends mon courage à deux mains, je fais mon coming out à mes parents. Et je découvre la vie locale, donc je leur dis je vais pas rentrer quand j'avais dit que je rentrais parce que j'ai besoin d'être en immersion en fait dans cette commu queer. Pour la première fois en fait, je retrouve des gens qui me ressemblent. Je travaille au Castro, qui est un peu le cœur de la vie gay locale. Et je découvre des assos qui interviennent sur des événements qui font de la prévention en santé sexuelle. Il faut savoir qu'en 2004, on est encore en fin de pandémie VIH, mais c'est quand même encore très présent dans la communauté. Et donc voilà, donc je crois que c'est aussi mes premiers pas où je suis à leur côté. Et quand je dis, ok, qu'est-ce qu'on doit répondre? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le flyer? C'est quoi les questions à poser, etc. Et en fait, je crois que je découvre également ce qu'est la prévention et la santé sexuelle à ce moment-là. Que je vais continuer à faire quand je vais vivre à Pékin, je suis en 2006 pour rien avoir, je travaille en cabinet d'avocat. Je suis accueillie par un couple de mecs qui me présente à toute la planète queer pékinoise. C'est incroyable de se dire à Pékin en 2006, il y a une boîte qui se lance qui s'appelle le Destination. Moi je suis là en mode ok à fond, moi je veux être là sur toutes les soirées et continuer à faire ce que j'ai fait à Pékin, c'est essentiellement de la prévention en milieu festif. Et tu vois, et en fait, tu rajoutes à ça le fait que j'ai commencé à écrire des blogs sexo assez rapidement. À l'époque, je suis une vieille. On appelait ça des blogs. Et je pense qu'il y a un moment, j'ai pas conscientisé, puis il y avait des meet-up sexo que j'organisais. Donc ça, c'était à partir de mes 30 ans. Et j'étais pas sur les réseaux sociaux. Et je crois que le basculement, ça a été l'arrivée sur les réseaux sociaux pour moi fin 2018, où tu prends conscience, donc c'est Instagram après MeToo, ouais. Et tu te rends compte en fait qu'il se passe des choses incroyables. Et j'ai montré ça à mon mari. J'ai dit, mais regarde, il y a des gens en fait qui font des posts, des stories. En fait, j'ai découvert ce que c'était que également le militantisme, l'éducation sur les réseaux. Et mon mari m'a dit t'as qu'à créer ton compte, hein. Et je lui ai dit ça sert à rien, en fait tout est déjà là, donc je vois pas en fait ce que moi j'apporterais. Et je le pensais sincèrement, en fait ça servait à rien. Il m'avait dit non mais attends, je t'explique, moi je fais de l'ultra trail, je suis abonnée à tel et tel compte. En fait, quand tu t'intéresses à un sujet, en réalité tu prends tout un spectre en fait de comptes où tu vas piocher des infos. Et puis sans vouloir être ne le prends pas perso, ma chérie, mais t'es un peu spéciale. Et ta manière à toi, en fait, de vivre ton message, de le véhiculer, ton côté hyper geek, mon côté très scientifique, parce qu'effectivement, je suis abonnée à des revues médicales, scientifiques depuis 10 ans, et je classe, je répertorie. J'ai un côté très geek, où j'ai besoin, en fait, de comprendre tout, d'être à jour de mes publications pour me sentir légitime, c'est comme ça. Il m'a dit, voilà, il y a des gens qui vont aimer ça. J'ai créé mon compte et j'ai rien pigé. Voilà, ça a donné une commu que vous connaissez. Je sais pas, j'ai mis 3 heures à répondre à une question simple.
C'est
voilà.
Super.
C'est un peu l'histoire du compte, si on devait donner plusieurs lignes. Voilà.
Trop bien. Il y avait une deuxième partie de question, du coup, si tu me permets. C'est, du coup, comment t'es de là venu arriver à l'envie, au désir de faire un livre? Parce que du coup, là, tu parles de cette... que tu avais le sentiment qu'il n'y avait pas forcément besoin puisque tout était déjà présent. Ouais. Et au final...
Exactement. Alors là pour le coup, donc j'ouvre mon compte Instagram. Je crois que j'ai été cueillie. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire. J'ai été cueillie par le succès, mais assez négativement. En fait, moi, je m'attendais pas à ça. Et je trouvais que le fait que le compte explose était... en gros, un mauvais signal. Je pense que, d'ailleurs, j'en démords pas. Ça signifie simplement qu'en France, il y a un vide abyssal en termes d'éducation aux sexualités, aux identités queer, à tout, en fait, au consentement. Et que, voilà. Enfin, voilà, quand les gens me disent comment t'expliques ton succès ? Comment j'explique mon succès ? Mais là, c'est parce que c'est la grosse merde. Mais c'est dramatique. Je m'attendais pas, j'étais cueillie. Parce que moi, je suis d'une génération, moi, je suis née en 83. Enfin, j'ai cette sensation d'appartenir à l'ancienne, à l'autre génération, tu vois. Et je pensais naïvement qu'il y avait quand même des progrès qui avaient été faits. Et voilà, dans le milieu éducatif, dans le milieu médical, etc. Et en fait, t'as l'impression que rien n'a bougé. C'est pire, en fait, parce que la pornographie a explosé depuis l'arrivée des smartphones. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est pire parce qu'en fait, on doit détricoter toute la merde, en fait, qui s'entasse dans les représentations, l'univers. Ce qui est OK. Le porno, c'est un support masturbatoire, génial quand c'est fait de manière éthique, etc. Ça n'a aucune vocation à être un support pédagogique pour des gamins de 12 ans. Voilà. Et ça, en fait, le problème, c'est que... Là, je me rends compte que c'est la grosse merde, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent pour venir s'éduquer, et que je me dis, mais cette ignorance, ce vide abyssal, en réalité, s'explique par quoi ? Parce qu'on ne parle pas de ce sujet. On n'en parle pas dans le premier cercle dans lequel on évolue, qui est la famille. Les parents n'en parlent pas. L'école ne prend pas le relais, les pros de santé sont complètement à la rue. Donc en réalité, on part d'un truc où il y a tout à faire. Et je me suis rapidement dit, il faut absolument... tout le monde a besoin d'aide, les adultes, les enfants. Mais du coup, le premier sentiment que j'ai, et tout le monde va le comprendre, il faut privilégier les personnes les plus fragiles et les vulnérables, qui sont les enfants. Donc du coup, la première intention, alors que je tenais un compte pour adultes, ça a été d'écrire un bouquin pour les enfants, parce que je me suis dit, il y a urgence, en fait, de donner aux enfants tout de suite les outils, les compétences, les connaissances importantes, en fait, pour se construire par rapport à soi, par rapport aux autres, etc. Donc, le premier livre, il m'a coulé des doigts, en mode, OK, les parents, vous inquiétez pas, vous aussi, vous flippez parce que vous savez pas comment aborder le sujet, parce que vos parents ne vous en ont pas parlé. Vous avez peur de pas trouver les mots, de trop en dire, de pas... Enfin bref, vous savez pas comment aborder. Vous inquiétez pas, j'ai 3 enfants et donc moi aussi je me suis retrouvée en fait aux prises avec mes propres enfants qui me disaient « Maman, c'est quoi ton métier ?» Je suis éducatrice en santé sexuelle. « Maman, sexuelle, est-ce que c'est ça pareil que sexe ? Ça veut dire quoi, sexe ?» Super, alors on y va. Moi, c'est mes propres enfants qui m'ont également confrontée à la difficulté, en fait, de parler de ce sujet-là. Et du coup, le premier livre, c'était pour les enfants, 5-14. Quand les parents ont commencé à me dire « Charline, j'ai acheté ton bouquin pour les enfants, je l'ai lu, j'ai appris tellement de trucs !» Hé, les gars, mais c'est un bouquin pour les enfants et... Ok, t'as appris des trucs. Mais alors, du coup, si j'écris un bouquin pour les adultes, mais c'est... incroyable ce que je vais t'apprendre comme truc. Et là, je me suis dit, voilà, il faut absolument écrire la suite. Donc, c'est le bouquin pour les 15 et plus. Donc, voilà.
Et du coup, j'ai une question. Pourquoi 15 ans ? Est-ce que c'est par rapport à une obligation légale que tu as mis à partir de 15 ans ?
Ouais. Okay. En fait, le premier bouquin s'appelait Les 100 questions, 5-12 ans. Et à ce moment-là, donc, commence à arriver ces espèces de témoignages de parents qui me disent c'est tellement utile qu'on a nous-mêmes appris des choses. Et je me dis, OK. Bougez pas, je vais vous préparer un contenu adapté pour vous. Et là, je commence à écrire, et c'est évident dans la seconde où je commence à écrire, C'est impossible pour moi. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut être explicite. C'est-à-dire, avant 15 ans, et c'est effectivement en France l'âge qu'on appelle la majorité sexuelle, qui n'est pas un terme juridique. Ce qui est juridique, c'est de dire qu'avant l'âge de 15 ans, en fait, par défaut, on considère qu'il n'y a pas consentement. Voilà, c'est ça la majorité sexuelle. Après 15 ans, on considère que par défaut, il y a consentement. Voilà, voilà, c'est un peu ça le sujet. Mais c'était du coup impossible de faire un livre sur la sexualité de manière... En fait, ça n'avait aucun sens de faire un truc sans parler des choses de manière explicite, en montrant des corps, etc. Et là, je me suis dit, mais... je ne peux pas faire un truc, tu vois, genre, à partir de 13. Enfin, c'est clairement, il y a un sujet juridique légal d'abord. Et aussi, entre-temps, m'arrivaient tous les trous de la raquette du premier livre. Tous les parents qui m'ont dit, ah ouais, mais super, mais t'as pas abordé, par exemple, un sexe, ça se lave comment ? C'est vrai que je l'ai pas mis dans mon premier bouquin, alors que l'hygiène du corps, c'est un truc qui, pour le coup, voilà, c'est pour tout le monde, hein, pour quel que soit l'âge. Donc je me suis dit, ok, alors des questions, ou l'endométriose également pour les personnes menstruées qui découvrent ça parfois très tôt. Donc voilà, il y avait des points en fait qui me manquaient. Du coup, je me suis dit, parfait, je vais rebosser mon premier livre en rajoutant toutes les questions nécessaires et en le montant aussi très logiquement jusqu'à la fin du collège. Donc le premier livre, c'est vraiment primaire, collège, jusqu'à la fin du collège. Et ce livre-là, eh ben, il est à partir de 15 ans. Et là, pour le coup, je me suis dit, allez, on y va. et là, c'est hyper explicite. Et c'est aussi ce que je dis aux parents d'élèves quand j'interviens dans les établissements. Moi, je milite pour qu'on arrête d'utiliser le mot éducation à la vie sexuelle avant le lycée. Parce que la réalité, c'est qu'on est dans un pays... où il y a des forces d'opposition conservatrices qui font beaucoup de tort en fait et qui mettent en tête que éducation à la vie, enfin éducation à la sexualité, on va parler de sexe à des enfants, tu vois, de 5 ans. Les gens ne sont incapables de faire le distinguo entre sexualité et sexe. Donc moi je dis ok, je dis souvent éducation à la vie affective quand on est en primaire ou au collège. Et pour moi voilà, l'éducation sexuelle ou à la sexualité, elle commence vraiment à partir du lycée, à partir du moment où je commence à entrer dans le vif de tous ces sujets.
Mais du coup, est-ce que pour toi, ce livre pourrait avoir vocation à quand même être accessible à des collégiens, collégiens ou pas ?
15 ans. Okay. En fait, je dis ça et en même temps, il y avait des intervenants, intervenantes qui me disent effectivement qu'en troisième, en fait, il y a des questions posées par les élèves de troisième qui sont des questions qui sont dans ce livre pour les grands, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, d'abord, les enfants sont différents, ont des niveaux de maturité, de curiosité différents d'un enfant à l'autre. C'est ultra normal, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une imprégnation au porno qui est de plus en plus importante, et qu'en fait, c'est terrible. Moi, quand les parents me disent « Ah, mais l'innocence de votre enfant. vous voulez que je vous lise à voix haute le chapeau, tu sais, je fais un chapeau de la question ou la question la plus taboue que tu as me posée en matière de sexualité ou l'idée reçue. La réalité, c'est que tu as 60% des questions du chapeau qui sont littéralement des questions que tu as après avoir regardé un film porno, tu vois, et ça dès la cinquième. Donc, voilà, moi, ça me dépasse. Et effectivement, je pense qu'on, comme cette personne qui me l'a dit tout à l'heure, je réponds également aux questions des troisièmes avec ton bouquin.
Mais c'est sûr, surtout avec quand on voit qu'aujourd'hui, les premiers films pornographiques sont regardés vers 11 ans, que les premiers rapports sexuels arrivent vers 12-13 ans, il me semble. C'est...
Alors, les premiers rapports en France n'ont pas bougé la moyenne, en tout cas. Même si, oui, c'est une gaussienne. Donc, effectivement, dans des écarts extrêmes, tu peux avoir du 11 ans. L'âge, il reste 17 ans en moyenne, en 17 ans, 17 ans et demi. Il est prouvé que plus les enfants ados ont eu de conversations autour de la sexualité, plus l'âge des premiers rapports sont tardifs. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc, je donne d'ailleurs les sources, les publications. Je trouve ça extraordinaire pour dire aux parents, vous savez, les comportements à risque qui sont favorisés par l'ignorance. C'est-à-dire, on vous parle pas d'un sujet, ça a l'air d'être un truc foufou, mais personne n'en parle. Bon, on va avoir envie de tester avec notre propre corps, en fait. Voilà. Alors que quand on parle du sujet de manière assez ouverte, je trouve ça, enfin, c'est fabuleux de se dire que la première réaction des ados, c'est se dire, ok, j'ai compris. Alors moi, le jour où ça arrive, mes premiers rapports, j'aimerais que ce soit avec une personne qui me demande le consentement. Du coup, on aura parlé de nos dépistages, et puis voilà, on pourra également parler de la charge, qu'on partage la charge contraceptive, et aussi, on pourra aussi peut-être communiquer avant sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'aime pas. Et je me dis, génial. Et en fait, le niveau d'exigence augmente, forcément. Et les rapports, les premiers rapports sont plus tardifs. Donc, c'est ce qu'on peut intuiter comme ça. Et c'est. Enfin, vraiment, ça a été dans les principes directeurs de l'UNESCO. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce que je vous dis là, c'est des études qui ont été menées dans différents pays. Il y a 200 pays reconnus par l'ONU. Et que quel que soit l'endroit où cette étude a été menée, plus les ados ont eu de conversations autour de la sexualité, plus les premiers rapports sont tardifs. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je souligne. Éduquer, c'est protéger. Donc franchement, n'ayez pas peur. Les parents, ça ne va pas leur donner envie de tester. Non, ça ne va pas leur donner envie de faire plus tôt. Ça va leur donner envie de faire mieux. Et ça, c'est important.
Merci beaucoup, c'est trop intéressant ce que tu dis. Et maintenant, je voulais un peu plus m'intéresser à la fabrication du livre. Donc, tu l'as dit tout à l'heure que tu t'es entouré de données très scientifiques. Et c'est également noté au début de ton livre les noms des scientifiques dont tu as lu les écrits, etc. Mais est-ce que tu t'es également appuyé sur le monde militant, sur le terrain, pour écrire et comment ?
Alors, c'est une bonne question. J'irai pas jusqu'à... Enfin, je sais pas. En fait, je me sens toujours illégitime parce que moi, je suis... Enfin, tu vois, le milieu associatif, je l'ai quitté quasiment quand j'ai quitté Pékin, Berlin. Donc, on parle de 2007, tu vois. Donc, même si aujourd'hui, je travaille très régulièrement avec des assos, je suis encore très présente auprès des assos queer parce que je considère qu'elles ont un rôle, et encore aujourd'hui, éducatif, de sensibilisation, qui est de l'ordre de l'utilité publique, de la santé publique. En réalité, je peux faire juste un petit rappel parce que je pense que cette question, elle est hyper importante pour deux raisons. Il y a les gens ignorent, en fait, quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est le sujet qui nous rassemble tous. Je pense qu'en France, il est important de rappeler que au début, ça s'appelait c'est le mouvement pour le planning familial qui a été créé en 1959. Qui, à la base, effectivement, on était pour une planification des naissances. Donc vraiment, à la base, le planning familial distribuait les plaquettes sous le manteau avant la loi Neuwirth et énormément milité pour la légalisation de l'avortement. On était vraiment, et c'était avec toute la contraception que le planning familial est entré, en fait, dans ce qui était l'espèce d'ancêtre d'éducation à la sexualité, au corps, aux menstruations, etc. L'arrivée du VIH et du travail énorme des assos militantes, que ce soit ACT UP, que ce soit SIDAction, SOS Homophobie, etc. Tout ce milieu queer, et il faut le rappeler, en fait, ont donné une espèce d'énergie et de regain à ce qu'est du coup le deuxième étage de la fusée de l'éducation à la sexualité, qui est également la prévention contre le VIH et les autres IST. J'ai envie de dire le troisième volet préventif également apporté par le monde militant, c'est quand même toute la libération de la parole autour des violences sexuelles avec MeToo, qui a encore été largement portée par le monde militant, le monde des activistes. Donc en fait, le volet préventif en France de l'éducation à la sexualité, il est grâce au travail depuis, vous voyez, 59, ça remonte à plus de 65 ans, à des assos et au militantisme. Donc je pense qu'on peut pas aujourd'hui dire qu'on fait de l'éducation à la sexualité sans vraiment parler de tout ce travail en amont qui a été fait pour qu'aujourd'hui on puisse faire ces ouvrages, on puisse travailler sur Instagram. En fait, les gens savent ce que c'est, mais c'est une partie du sujet. Et il y a également tout le côté positif, peut-être. Toute la partie plaisir, etc., qui se rajoute, parce que l'approche par les risques ne peut pas être l'alpha et l'oméga de l'éducation à la sexualité. Comme je dis à mes lycéens, pourquoi on parle autant de sexe ? Parce que potentiellement, c'est une des expériences également les plus plaisantes qu'on peut vivre sur Terre pour se connecter à soi, se connecter aux autres. Donc c'est pour ça que tout le monde en parle beaucoup. Mais pour que ça se passe dans des bonnes conditions, il y a quelques bases à maîtriser et je vous propose qu'ensemble on maîtrise ces bases. Voilà, c'est comme ça que je présente le truc. Mais ouais, faut leur dire que c'est génial aussi. Ça peut pas être que des risques. Voilà.
Merci, c'est super intéressant. On est un peu limité par le temps.
On va peut-être devoir enlever quelques questions. Peut-être essayer de raccourcir un peu. Enfin, on va limiter un peu des questions et faire peut-être des réponses un peu plus synthétiques.
Je vais essayer.
Pas de soucis.
Ok. Est-ce que. Bon, tu as déjà, un peu évoqué la situation. Tu as parlé un peu de l'évolution de la situation, notamment à cause de la pornographie et de son impact global. Et donc, tu as l'impression que. Les choses s'empirent dans un sens. On se posait la question de savoir si c'est pas plutôt que ça se polarisait avec les personnes qui peut-être s'intéressaient plus en plus et ceux qui étaient plus victimes aussi potentiellement des modèles pas terribles.
On est dans une bulle filtrante éducative et on a toujours. Moi, il y a des journalistes qui m'appellent en me disant Charline, aujourd'hui, la sexualité, c'est bon, c'est plus tabou, le consentement, tout le monde en parle, c'est plus un sujet. Je suis désolée, vous pouvez sortir du 4e arrondissement de temps en temps. Enfin, mais sur quelle planète vous vivez? Enfin, moi, j'interviens dans les établissements scolaires parce qu'il y a du viol conjugal en première. En fait, non, j'ai cette sensation qu'il y a un travail immense. C'est potentiellement juste qu'aujourd'hui, on ouvre les yeux sur l'immensité du travail à accomplir. Je pense qu'il y a ça. Deux, effectivement, on doit pédaler, mais comme des tarés, parce que t'as le porno qui nous tire en arrière et que c'est une énergie malade et que quand tu constates les chiffres, c'est 12-13 ans. À 12-13 ans, ils sont 52% à passer plus d'une heure par mois sur des sites porno. C'est ça les chiffres. Donc effectivement, t'es là en mode pff, ok, donc voilà. Et à côté de ça, tu dois lutter contre des forces politiques parce que l'intime est politique et parce que aujourd'hui il y a des collectifs de parents, notamment les mamans louves, les parents vigilants, les parents en colère, je sais pas quoi, en fait, qui sont instrumentalisés par l'extrême droite pour nous expliquer que en fait ce qu'on fait c'est mettre en danger les enfants, que nous sommes un danger pour les enfants en leur parlant de ça, alors que la réalité, donc ils se cachent derrière toujours la sécurité des enfants et tout. Or t'es là en mode vous êtes très drôle. Non, il y a des violences intrafamiliales hyper importantes, donc c'est aussi important de faire qu'il y ait un circuit éducatif qui soit en dehors de la sphère familiale pour qu'il y ait un espace où les enfants puissent déposer leurs paroles, être écoutés, prendre conscience que ce qui se passe chez eux n'est pas normal. En fait, voilà, moi j'ai été abordée. J'adore quand les mamans louves m'abordent au parc avec mes enfants pour me. Mais vraiment, c'est de l'évangélisation. Il y en a qui font du porte-à-porte. Ces personnes font du maman à maman ou de parent à parent au parc. Et donc, il y a une personne qui est venue me voir. C'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un me dire. Donc, on leur apprend l'anatomie en leur demandant de se mettre à poil en classe. Et t'es là en mode, voilà, c'est nickel, super. Et j'étais là, incroyable, non, c'est scandaleux, ils n'ont pas le droit de faire ça. Tu vois, moi, je m'offusque et tout, j'arrive, je tiens bien le jeu. Et en fait, elle me dit, mais c'est pire que ça, on leur demande de toucher les parties génitales de leurs camarades. Je dis, non, c'est pas possible, c'est de la violence. Oui, c'est ça, c'est de la violence, mais en même temps, à quoi on s'attendait venant de la part du lobby LGBT? C'est la première fois, je te promets. En fait, il y avait, pour moi, lobby LGBT, c'est un truc que je voyais sur des réseaux sociaux. Genre, pour moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui réellement parlaient en disant lobby LGBT. Donc, c'était ma première expérience de lobby LGBT. Donc, ça, je la regarde et j'ai fait oh là là. Et vraiment, elle tenait son truc, elle sentait qu'elle y allait. Et là-bas, on leur apprend que quand il y a des grossesses, il faut faire une IVG. Je fais, ah bon? Mais oui, il y a une incitation à l'IVG. Alors que moi, elle était orthophoniste, la meuf. Moi qui suis orthophoniste, moi, je peux vous dire, des gamines qui ont subi des viols, j'en vois dans mon cabinet. Et alors, je peux vous dire que celles qui gardent leur enfant vont vachement mieux que celles qui font des IVG parce que, tu vois, elles transforment la vie, la mort en vie. Et c'est beaucoup plus puissant. Je fais, ok, c'est bon, le bingo de l'enfer, tu sais. Et je me dis, on peut pas, ça doit s'arrêter un moment, cette histoire. Et là, elle fait, et c'est pire que ça. On les incite à faire des transitions et tout. Vous connaissez l'observatoire de la petite sirène, c'est hyper important. Et elle arrive avec ses flyers où il y a des QR codes et tout. Et t'es là en mode, ok. Donc en fait, ils font un travail monumental. Ils sont hyper actifs sur les réseaux sociaux, hyper actifs dans tous les cercles de parents, etc. Et en fait, on doit lutter contre ça. Et même ma propre communauté que j'éduque depuis 5 ans, Il n'y a pas un jour où j'ai pas un message en disant « Charline, j'ai entendu ça, ou j'ai vu ça sur le groupe des WhatsApp de parents de l'école, est-ce que c'est vrai ?» Voilà. Donc en fait, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est hyper polarisé et c'est hyper instrumentalisé. Et tant qu'on n'a pas un gouvernement qui tient la route et qui fait de la pédagogie pour expliquer pourquoi éduquer, c'est protéger, et que quand on regarde les 15-24 ans qui ont reçu une éducation, on a moins d'IST, moins de grossesse juvénile, moins de violences sexuelles côté agresseur ou victime. En réalité, éduquer, c'est protéger plus. Et pour tout le... enfin, en vrai, tant qu'on n'a pas un gouvernement qui prend la place pour faire... on est en train de se laisser dépasser par des forces où eux, en l'occurrence, ils ont vachement plus de moyens que des assos, que 4-5 personnes ou 20 personnes qui se battent sur les réseaux pour essayer de faire passer des messages. Voilà, donc c'est compliqué. Là, la réponse, elle peut pas être...
Ok, et donc du coup, je rebondis, c'était la suite, j'avais une question à ce niveau-là. On voit que les jeunes générations, en fait, sont de plus en plus traversées par... aussi parce qu'il y a de l'information par les questions de genre et de déconstruction du genre.
Oui.
Et je voulais savoir sur le terrain, toi qui es dans les collèges et les lycées, qu'est-ce que tu observes aussi niveau changement
Comme partout, en fait, il y a une évolution à plusieurs vitesses. C'est-à-dire, tu peux intervenir dans un établissement parisien où tu dis, bon, on va parler de la puberté. Aujourd'hui, on va poser quelques mots. On va parler de personnes menstruées. Est-ce que vous comprenez pourquoi on dit personne menstruée et pas simplement femme? Et donc, t'as la moitié de la classe qui lève la main. Et puis, t'as l'impression que la moitié de la classe quasiment te dit moi mon pronom c'est Yel. En réalité la question du genre dans leur cerveau c'est banal. C'est un non sujet. Et à côté de ça t'interviens dans des établissements où t'as des remarques transphobes quand t'abordes des questions d'identité de genre et tu dois gérer ça. Et voilà. Et en réalité, il y a une France à plusieurs vitesses. Il y a des établissements différents, il y a des environnements culturels, socioculturels différents. Et donc, la France, c'est pas un monolithe en fait. Je peux pas te dire que c'est partout hyper avancé. Il y a des parents qui, quand je fais le petit zoom des parents en leur disant les slides, je vous présente les slides que je vais montrer à vos enfants, vous m'arrêtez. Quand vous vous ressentez quelque chose, quand vous avez des questions ou quand ça gratte. Et il y a toujours deux slides qui posent problème. Il y a en gros la sexualité à soi, c'est-à-dire finalement la masturbation. C'est problématique pour les parents de parler de sexualité à soi. Et quand tu interroges, je te dis mais c'est marrant parce que si je vous dis qu'il y a des ados, des petits mecs qui se branlent, ça vous choque ou pas?
Non.
Alors du coup, qu'est-ce qui vous choque? Ce soit avec des jeunes filles, 6, qui ça. Alors là, tout d'un coup, pour plein de parents, faudrait quand même pas dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'elles ont droit de se branler, d'explorer leur propre corps. Deuxième slide qui pose problème, la slide sur les identités queer. Alors là, je les ai perdues. Déjà ils savent pas ce que ça veut dire et ils ont peur, j'exprime les peurs des parents, ils ont peur que parce que je vais parler des identités queer, LGBTQIA+, ça risquerait de donner à leurs enfants envie, ça risque de leur donner envie de devenir gay, c'est le discours des parents, et ça leur donnerait, ils ont peur que je les pousse à faire des transitions de genre, voilà. Donc tu détricotes tout ça, tu dis en réalité, cette slide, elle a pour but de permettre aux enfants concernés, aux ados concernés, et je vous promets qu'il y a des enfants concernés et des ados concernés, juste de se dire, oh mon Dieu, tout va bien, je suis un soleil, je suis normale, j'ai le droit d'exister comme tout le monde, je suis hyper légitime dans ce que je ressens, dans ce que je suis, et ça va également envoyer un message, parce qu'on va travailler là-dessus, de prévention du harcèlement scolaire, qui est un immense sujet pour les enfants et les ados queer. Et donc, oui, on est là vraiment pour sauver des vies, pour permettre à des enfants d'être protégés, etc. Mais la réalité, si on pousse le sujet 1 plus sujet 2 qui pose problème, c'est quoi? C'est donc, vous voulez pas que je parle de masturbation aux jeunes filles? Et dans vos têtes, tout le monde doit être... si c'est hétéro. Voilà. Et du coup, en réalité, si on va au bout de votre logique, ça serait que, quelque part, dans votre cerveau de parent, vous vous dites ça serait génial que ma fille, elle découvre le sexe, forcément, dans votre tête, avec un homme, Du coup, ne connaît rien à son corps à lui, ne connaît rien à son corps à elle, et qui, avec son glaive tout puissant, va lui donner du plaisir, parce que tout le monde sait que c'est évidemment comme ça que ça fonctionne, alors qu'elle-même n'a pas le droit d'avoir accès à son propre corps. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Le niveau de misogynie, en fait, misogynie intériorisée, parce qu'il y a quand même trois quarts de mamans sur le Zoom, est monumental. Mais c'est ça, en fait, les trucs qui bloquent en France. Et voilà, quand j'interviens dans les établissements où on n'est pas dans un environnement favorable, on va dire ça comme ça, c'est voilà, les principaux sujets sur lesquels c'est compliqué.
Alors, merci beaucoup pour ces explications. Donc, on a fait une partie plus générale sur ton parcours et ce qui t'a poussé à écrire le livre. Et maintenant, on aimerait un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Et avant ça, est-ce que tu veux présenter ton livre en une minute, au cas où il y a des personnes qui ne l'aient pas encore lu dans la
salle ? Très bien. Alors, je vais vous la faire la plus... OK. Est-ce que vous donneriez les clés d'une voiture à un ado de 16 ans qui n'a pas pris un seul cours de code ? Il n'a pas non plus pris un seul cours de conduite. Vous lui donnez les clés de votre voiture ? Non, parce qu'il risque d'être un danger pour lui, comme sur la route, hein, comme pour les autres. Ok ? Eh bien, c'est la même chose, en fait, pour la vie affective, relationnelle, sexuelle. En fait, il est impensable de laisser des personnes sans éducation, sans code de la route, débuter leur vie affective, parce qu'on risque d'être un danger... des dangers qui sont... des IST, un risque de grossesse, des violences sexuelles, on risque d'être un danger pour les autres, c'est-à-dire on peut briser durablement des vies en étant un crevard dans sa vie affective. Donc la réalité, voilà pour le résumé, c'est le code de la route. Voilà. En fait, je me suis dit, il faut écrire le code de la route, et c'est pas parce qu'on conduit et qu'on n'a jamais passé le code, on peut conduire depuis 20 ans et en fait se dire, oh, ça valait dire ça ce panneau, oh mon Dieu, fallait réagir comme ça dans telle situation, oh mon Dieu, cet accident, putain, ça m'est arrivé, ah là là, mon Dieu, c'était pas ma faute. Voilà. En réalité, c'est le code de la route, et c'est vraiment l'ouvrage que chacun, chacune devrait lire. De toute façon, c'est la réponse, le message que j'ai reçu le plus, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça à 17 ans, à 18 ans, au début. Voilà. Donc je pense que voilà, et il est jamais trop tard. Donc voilà, il y a plein de personnes pour qui c'est trop génial de savoir que même plus 40 ans, 50 ans, ça continue à avoir des impacts importants. Mais idéalement, offrez-le à toutes les personnes qui débutent autour de vous. C'est vraiment le plus grand cadeau qu'on puisse leur faire pour débuter leur vie de manière saine. Voilà.
OK, merci beaucoup. J'en vais un peu sur cette petite réflexion que j'ai sur le lobby LGBT, parce qu'en même temps, on est capable d'avoir un lobby LGBT extrêmement stratégique et très très puissant et international, et d'un autre côté, on a des malades mentaux irresponsables.
J'aime t'as
bien
vu
ce
ça
petit décalage. En parlant de ça, t'as toute une partie quand même qui est superbement écrite sur la, qui m'a touché personnellement forcément sur les questions de transidentité et l'identité de genre en général. Qu'on a trouvé tous les trois vraiment parfaite. On a vraiment même envie de prendre tes feuilles et de les utiliser.
Big up. Je peux dire un mot sur. En fait, tu parlais tout à l'heure des personnes avec qui j'ai bossé. Ça a quasiment pas bougé sur mes deux livres. Ce sont des personnes avec qui vraiment je peux pas prendre tout le crédit pour moi. D'abord l'illustratrice Juliette Mercier, Stomy Buzzy, qui a fait un travail incroyable. Et pour qui c'est une évidence. Et voilà. Et aussi. Tu parlais des questions de genre, Morgane Lucas, qui fait un travail de sensibilisation sur les réseaux et qui m'a accompagnée, c'est mon sensitive reader sur les deux livres, et qui m'éduque au quotidien et qui a été vraiment une boussole aussi pour l'écriture de ces deux livres.
Mais en fait, t'as répondu à la question que j'avais posée. Mais c'est super. Non, écoute, juste vraiment, merci d'avoir remis ces questions, d'isoler les questions de genre et de sexualité, surtout sur un bouquin qui parle de sexualité, parce que c'est toujours important de le rappeler encore ce soir, de dissocier ces choses-là. Et oui, donc effectivement, c'était la question, c'était de savoir avec qui
Morgane. Mais Morgane, super. Abonnez-vous à Morgane Noam sur Insta. Et voilà.
Merci beaucoup.
Alors, moi, je voulais aborder un autre point, un autre chapitre très important du livre, même le cœur du réacteur, comme tu l'as dit. Donc, c'est le consentement. Donc, déjà, je pose un petit trigger warning, consentement, voilà. S'il y a des personnes qui se sentent pas très à l'aise avec le sujet. Donc la première chose qui m'a frappée, c'est ton acronyme des règles que j'ai trouvé vraiment super. Et du coup, je voulais savoir juste comment tu avais eu l'idée, où tu l'as trouvé, je sais pas.
On s'est creusé le crâne. Ça nous a pris vachement de temps. On en avait d'autres qui étaient à fond, mais vraiment, mais nul. Mais est-ce que ça parle à tout le monde, règles? Vous l'avez dans le bouquin, les règles du consentement. En fait, R. Alors du coup, c'est dans le désordre, mais révocable. Enthousiaste, gagnant-gagnant. Si je te respecte, tu me respectes, ensemble on passe un super moment. L pour libre, E éclairé, S spécifique. Ok, donc c'est vraiment les règles du consentement, et donc c'est représenté par une règle dans le livre. En fait, on l'a retourné dans tous les sens. Tu sais, j'avais l'impression d'être à Motus. Tu sais, enfin, t'essaies de faire des mots, et t'es là, enfin voilà. Et en fait, ils ont un super acronyme aux US qui s'appelle FRIES. Tu vois, pour freely given, etc. Et en fait, on cherchait et en France, en français, ça donnait rien. Donc en fait, on a dû partir sur autre chose, et c'est devenu les règles. Voilà.
Merci beaucoup. Et j'avais une autre question, si jamais, voilà. Donc trigger warning avant cette question. Donc je voulais te remercier de parler de la dissociation, qui est un phénomène qui est trop peu connu. Et par exemple, je n'avais pas compris comment ça se passait scientifiquement, en fait, à quoi c'était dû. Et donc, rien que ce petit encart m'a appris beaucoup de choses. Et je voulais savoir si tu connaîtrais des ressources pour en apprendre plus sur le sujet, justement.
Il faut que la mémoire traumatique, docteur Muriel Salmona, elle a écrit un livre entier sur le sujet. En fait, est-ce que tout le monde a le mot dissociation ou pas? Alors, je la fais courte et là, j'ai un gros trigger warning, ok? Quand on vit des situations choquantes, traumatiques, et en l'occurrence, les violences sexuelles, évidemment, en font partie. Le corps, la première réaction du corps, comme toujours, c'est « il faut survivre okay ». Le problème, c'est qu'en fait, on peut être pris dans un tel choc que le corps sécrète une quantité de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, ok ? C'est également l'hormone de l'adaptation, mais globalement, ça a plutôt tendance à la base, le cortisol, c'est ce qui va vous permettre de courir pour échapper à un danger, de réagir rapidement, etc. Le cortisol, quand on vit une situation extrêmement traumatisante et choquante, il peut être sécrété par une telle quantité par le cerveau que littéralement, vous pouvez mourir la seconde suivante. Vraiment. Et à ce moment-là, le corps est un truc complètement magique. Il y a le truc qui dit « Oh, mais il faut que je fasse survivre cet individu !» Et le cerveau débranche. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui se coupe, notamment toute la partie limbique du siège des émotions. Parce qu'en réalité, si ça reste connecté, il y a une telle quantité de cortisol que ça cause un arrêt cardiaque. Okay ? Donc au moment où en fait, il y a une dissociation, c'est surtout en fait... c'est concrètement vraiment un court-circuit du cerveau qui est vraiment uniquement dû à cet impératif de « il faut que la personne reste en vie ». Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est en phase de dissociation ? En fait, potentiellement, d'abord, la première chose, c'est que ça s'accompagne souvent d'une atonie musculaire, donc on a du mal à réagir. C'est pour ça que les personnes qui vivent un énorme choc, en fait, elles sont là en mode « j'ai pas été capable de réagir, culpabilise ». Vous ne pouviez pas réagir, ok ? Vous êtes en phase de dissociation, donc à ce moment-là, c'est dur de parler, c'est dur de réagir, etc. Deuxième chose, tout ce qui va se produire pendant ce moment-là, ça va être enregistré, il y a une espèce de boîte noire, le souvenir des souvenirs, sauf que le siège habituel des souvenirs dans le cerveau, c'est l'hippocampe, mais là, comme il y a un court-circuit, ça va partir dans un autre endroit du cerveau qui n'est absolument pas dédié aux souvenirs, qui s'appelle l'amygdale. Ok ? Et donc l'amygdale est le siège de la mémoire traumatique. Et au moment où la mémoire traumatique, c'est-à-dire le souvenir de ce qui s'est passé dans ces trucs, dans ce moment traumatisant, revient, ça va revenir de manière hyper aléatoire, par bribes de souvenirs. Ça peut se réveiller au moment où on va recroiser un visage, réentendre une musique, se retrouver dans une situation similaire, et tout d'un coup, des souvenirs en fait peuvent remonter. Et c'est comme ça qu'effectivement, des violences sexuelles peuvent réémerger des années, des dizaines d'années après, parce que la mémoire traumatique, elle se libère de manière hyper aléatoire. Et il y a un livre donc consacré au sujet qui nous explique comment, au moment, le processus de dissociation et comment la mémoire traumatique fonctionne et comment, en fait, La justice humaine n'est absolument pas du tout adaptée au traitement des violences sexuelles, parce que quand vous allez porter plainte pour violences sexuelles, vous allez raconter un scénario 1, parce que l'amygdale, elle a libéré, on va dire, la partie 1 des événements. Et puis à un moment, vous allez vous souvenir d'une partie 2. Donc vous allez retourner, où on va vous reposer des questions, il y a d'autres souvenirs qui vont réémerger, et potentiellement, il y a des choses qui vont revenir qui ne seront pas identiques, alignées avec le niveau 1, etc. Mais c'est comme ça que revient la mémoire traumatique. Et il est possible, il est même très probable qu'il y ait des choses, des légers détails qui diffèrent, parce que ça revient comme ça peut. Quand vous allez... Effectivement, dans une action en justice, malheureusement, quand vous donnez des éléments qui diffèrent d'une déposition à l'autre, qu'on vous pose des questions, qu'à un moment vous répondez oui, le lendemain vous répondez non, on va vous dire elle ment, c'est faux, etc. Et ça fait partie des nombreuses raisons, mais en même temps, pour lesquelles les violences sexuelles, en France comme ailleurs d'ailleurs, sont aussi peu condamnées, aussi peu jugées, parce que la réalité, c'est que la mémoire traumatique, enfin, il n'y a aucun système judiciaire qui ne s'est adapté au fonctionnement de la mémoire traumatique, de comment sont vécues les violences sexuelles. Donc en fait, il faut considérer qu'on est au stade 0 en France, par exemple, parce que s'il y avait vraiment cette prise en compte, eh ben, en fait, ces écarts de discours, de témoignages, de récits, ça ne devrait pas en fait, être un problème au jugement d'une affaire. Aujourd'hui en France, malheureusement, tu dis deux trucs différents, ça y est, c'est fini.
Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai un peu l'impression d'avoir cassé l'ambiance. Mais
non, mais c'est important comme sujet parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi il y a 1% des viols qui sont condamnés en France. Ouais. Ben, parce que souvent, dissociation, mémoire traumatique et malheureusement, voilà, ça, c'est une des nombreuses raisons.
Merci beaucoup. Enfin, c'est vraiment super d'en apprendre plus sur la question. Je ne sais pas si vous voulez poser une question. Ouais.
Oui, moi, je voulais te poser une question sur le chapitre concernant la grossesse. Dans le milieu militant, on parle de plus en plus des questions de grossesse, notamment de postpartum, de sexualité de grossesse. Ouais. Mais il y a un sujet que je trouve encore qui est assez tabou. J'ai été concernée sur la grossesse extra-utérine. Ouais. Et il me semble que
tu n'en parles pas. Non, j'en parle pas.
J'avoue, j'ai eu une petite déception parce que j'ai été concernée. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas.
Ouais.
On n'en parle jamais dans les cours d'éducation sexuelle. À la vie affective. C'est quelque chose en France qui est courant. Il y a tous les mois des personnes qui en décèdent. Ouais. On ne parle pas des symptômes de la contraception. Je voulais savoir pourquoi.
C'est une bonne question. En fait, toute la partie grossesse, mais il n'y a pas que ce sujet-là. En réalité, de manière générale, je me suis arrêtée il y a une grossesse en cours. Et voilà, ton choix, en fait, sur la suite. Et donc, j'ai traité, effectivement, l'IVG. Mais je ne suis pas allée plus avant, en fait, dans le déroulement de la grossesse. Et donc, en fait, on s'est posé la question, mais en fait, je suis désolée, c'est horrible, parce que moi aussi, je vais casser l'ambiance. Il y avait un impératif de mon éditrice qu'il fallait que ça tienne en 320 pages. Et il y a des sujets qu'on a coupés, on est passé à la fin de 356 à 320. Et se dire, en fait, l'objectif, c'est que le livre reste lisible. Parce que si ça devient illisible, en fait, les gens n'ont pas envie de l'ouvrir, on a tout perdu. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qu'il n'y a pas. Et je te remercie de me remonter ça. Je me dis, je prends en compte et peut-être un jour il y aura autre chose. Mais t'as raison d'en parler et merci d'avoir sensibilisé au moins les personnes présentes à ce sujet.
Et ma question du coup, c'est dans les contenus militants, même moi quand j'en ai une.
Il n'y avait rien ?
T'en as quasiment pas en fait, on en parle très peu. Même sur le lien par rapport à la contraception, sur des suivis, parce qu'en fait, une fois que t'en as une avec une contraception, t'y as plus accès en fait à cette contraception. Tu tombes aujourd'hui après dans un vide un peu. Et même sur l'après, la question de pouvoir avoir des enfants et de pouvoir être suivi, en fait, il y a un vrai vide à ce niveau-là.
Okay.
Et que j'arrive pas à trouver dans les contenus. Okay. Voilà.
Alors, je te remercie parce que du coup, Juju la Gigi, qui est ma super pote, mais surtout la lectrice gynéco de mes deux livres, elle est en train d'écrire un livre sur la grossesse. Voilà, le guide décomplexé de la grossesse. Et tu vois, c'est marrant parce que je pense que c'est la première personne que je vais appeler en sortant. En lui disant, t'abordes comment la GEU et notamment les différentes sous-questions. Parce que du coup, t'as complètement raison et c'est important d'en parler, ouais.
J'adore tes baskets. Il y a un clitoris dessus, c'est magnifique. Pensée intrusive. Non, mais du coup, tu parlais justement, ça me permet de rebondir sur ces questions, on va dire, que tu as dû forcément un peu laisser de côté. Donc, tout ton livre, tu travailles justement sur une énumération de questions. Il y en a
139, je ne sais plus. Ouais, je ne me suis plus à combien on s'est arrêté à la fin.
Pas mal.
Ouais.
Du coup, ça m'a amené la question. À la fin, j'étais là genre, mais est-ce qu'il y a des questions qui ont été forcément mises de côté, enlevées? Et est-ce que potentiellement, ça s'est avéré de base pour un prochain livre, peut-être?
Bonne question. Je pense que les choix qui ont été faits, c'était surtout sur le premier. Il y a eu beaucoup de choses dans le premier chapitre que j'ai enlevé parce que en fait, je savais pas quel était le niveau d'éducation des personnes au niveau du corps. C'est bête ce que je vais te dire, mais je crois que la grande difficulté de ce livre 2 par rapport au livre 1, c'est que dans ma communauté, ça va vous parler, il y a des gens qui sont en ce que j'appelle le niveau 0 et niveau 1. C'est-à-dire des personnes qui n'ont vraiment pas eu de background éducatif sur ces sujets-là. Et il y a aussi des personnes qui sont en level 9-10 sur certains sujets, soit via la sphère militante, soit parce que c'est des médecins, mais enfin tu vois, des gynécos, etc. Donc en vrai, tu dois gérer une forme d'hétérogénéité des gens à qui tu t'adresses. Et là où ça m'a pris un temps fou, en fait, c'est comment tu fais un ouvrage de 320 pages en ne perdant pas le niveau 0-1, parce que pour moi, c'est hyper important. Et l'éducation populaire, au sens noble du terme, c'était important pour moi. J'en ai marre j'en ai marre du validisme, à faire des contenus très high level où on perd toute la base. En fait, la réalité, et pour le coup, moi, je le vois sur le terrain, c'est que la plupart des gens, quand tu sors de notre bulle filtrante éducative, la plupart des gens sont au niveau 0 ou 1. Donc, il faut absolument que ces personnes puissent avoir un accès à ce livre. Et en même temps, il ne fallait pas que les personnes qui soient au niveau 9 se disent « Ah, mais c'est beaucoup trop chiant, j'ai rien appris, etc. » Donc, créer un ouvrage où tu arrives à embarquer tout le monde, hardcore. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a des fois où j'ai voulu trop en mettre pour les uns ou les autres. Et c'est ça qui a été... c'est un peu ça qui a été découpé. Voilà.
Et du coup, j'ai une question. Parce que du coup, nous, avec le Beachy, on tient des stands, notamment on assure la sécurité des soirées. On a des stands où on propose des flyers, des zines, en fait, avec du contenu. Et je me pose la question de... On t'a quand même fait, en effet, comme un code de la route avec beaucoup de contenu. Est-ce qu'il y a des moments où tu voudrais que ça puisse être découpé en zines, qui puisse être distribué justement dans des soirées, dans des contenus militants ou des endroits?
C'est hyper intéressant. J'y avais pas pensé, mais par contre, t'as la même idée que mon mari. Okay. Mon mari, en fait... Mais mon mari, il me voyait mourir sur ce livre. Enfin, j'y ai passé 16 mois. J'ai cru que j'allais devenir... en fait, j'ai cru que j'en voyais pas le bout. Et il disait, pourquoi vous avez pas fait plusieurs livres? Donc, c'est effectivement une question... Et même, ne serait-ce que pour les personnes qui interviennent dans les établissements scolaires, avoir des livrets pédagogiques... je pense qu'on en a déjà parlé à la maison d'édition avec d'autres personnes, d'autres éditrices sur le livre. Ça serait bien au moins qu'il y ait un petit livret pédagogique, une espèce de synthèse en fait, qui puisse être utilisé, être distribué partout en milieu festif ou même dans les établissements, parce qu'il n'y a pas forcément moyen. On aura peut-être un au CDI, mais qu'est-ce que tu donnes aux élèves pour rentrer à la maison, etc.
Ok. Mais on attend.
Bravo.
Alors.
Dis donc, bravo Léo, merci. Enfin, je suis dans ma tête, je suis un mec.
Okay. On va peut-être passer aux questions publiques au niveau gestion du temps. Tu avais une dernière question que tu voulais poser?
Une question un peu personnelle peut-être, donc évidemment, si c'est trop. Du coup, tu as choisi aussi de te présenter sur les réseaux sociaux pour parler de sujets de société qui, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, sont critiqués parfois. Est-ce que tu vis aussi ces potentiellement critiques on parle de retour de bâton parfois. Est-ce que ça t'arrive, ce genre de choses, vis-à-vis de le contenu que tu crées?
Globalement, j'ai une commune de la part de ma commune, non. Enfin, plutôt positive, bienveillante. Pour les autres, haters gonna hate.
En vrai, et puis, enfin, je t'avoue que me faire juste une anecdote, quand le premier livre est sorti, avant sa sortie d'ailleurs, quand j'ai annoncé la sortie du premier livre, il y a une, je sais pas ce qui allait, mais elle fait partie des jeunes avec Zemmour. Elle avait un gros compte qui, je sais pas comment elle est tombée sur mon truc. Elle a partagé, elle est allée sur le site de la maison d'édition, où il y avait des extraits. Et elle en a fait toute une story avec aussi des extraits de moi, etc. Et je me suis retrouvée avec une armée de haters. En fait, c'est impressionnant parce qu'ils se déboulent par centaines en quelques minutes, en fait, dans tes, en commentaire de tes derniers posts, également dans tes DM, avec effectivement des menaces de mort. Pire que ça, on sait où t'habites. On va brûler ta maison, tu ne reverras plus tes enfants en vie. Moi, j'ai 3 enfants. Je t'avoue que j'ai vécu un moment assez glauque. Je crois que c'est, on a atteint un niveau 2 de glauquitude quand 5 jours, même pas 5 jours, 4-5 jours plus tard, ma boîte aux lettres a été vandalisée. J'habite un petit village, j'habitais depuis des années dans un village, seule boîte aux lettres du village vandalisée. Première fois évidemment que ça nous arrive. Là, je suis allée porter plainte avec toutes les captures écran avec des pseudos. Jésus est le roi, tu sais, qui me disait, on va te brûler, enfin, on va brûler ta maison, tu verras plus de temps. Je suis en mode, ok, vas-y. Et là, tu vois, tu dis, à la fois, mais j'ai réagi rapidement parce que t'es là en mode, bon, ben, vous êtes dans votre rôle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En réalité, choquer des masculins transphobes, homophobes, ok, ça me va. voilà, c'est juste qu'il est important de se dire, enfin, voilà, de faire ce travail de. D'abord, d'avoir une bonne supervision me concernant. Moi, j'ai des personnes... moi, je porte ma commune, il y a des personnes qui me portent. Et voilà. Et deux, en fait, c'est une contingence qu'on accepte, que moi, j'accepte, et je dis qu'on accepte collectivement. C'est-à-dire, je demande régulièrement à mon mari et mes enfants, est-ce que c'est OK pour vous que je continue? Et c'est horrible ce que je vais dire pour les gens qui sont là et qui l'entendent. Le jour où ma famille me dit, c'est trop dur, t'arrêtes, ou on arrête, eh ben, j'arrête. En fait, parce que le cœur du cœur de ma famille, c'est pas Instagram et je sais pas combien de milliers d'abonnés, c'est les gens que j'aime. Voilà, c'est tout.
Merci et bravo pour ce que tu fais.
Merci.
Et du coup, maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, on a à peu près 20 minutes.
Merci beaucoup.
On a 20-30 minutes.
Bonjour Charline,
bonjour.
Merci beaucoup d'être là, c'est trop chouette de t'avoir à Clermont-Ferrand et de pouvoir t'entendre parler. J'avais une question sur le format que t'as choisi, donc le livre et les 320 pages, d'autant plus que tu l'as présenté comme un peu un code de la route et aussi pour les personnes qui vont s'expérimenter là-dedans avant les premières fois ou vraiment sur les débuts. Du coup, est-ce que justement le format te paraît pas décalé si on prend un public qui est... soit assez jeune, soit... Enfin, est-ce que ça va pas rebuter justement ces 320 pages? Est-ce que le format te... Enfin, est-ce que tu penses que tu vas réussir à choper justement ces personnes-là avec ce format-là?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que j'avais vraiment... j'ai eu peur de ça du jour 1 à la fin du livre et même aujourd'hui. Je peux pas te dire que... Enfin, voilà, c'est un risque que je prends, mais je me suis, j'ai pris le temps avant de me lancer, de réunir les livres qui existaient sur le sujet et d'aller interroger les cousins cousines, mes voisins voisines, en fait une forme de panel d'ados entre 16 et 20 ans, d'accord, qui pour moi sont mon cœur de cible. Et je leur disais, ce livre-là qui est sorti, est-ce que tu pourrais le lire? Et ou le regarder et me dire ce que tu trouves bien, ce que tu trouves moins bien. Et moi, je notais, mais bêtement, sur un papier, voilà, les plus, les moins, etc. Et pour moi, ces retours qui existaient, des livres existants, ils étaient hyper importants parce que les messages qui sont sortis, c'est « il n'y a pas assez de dessins ». Il n'y a pas assez de dessins. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que ce soit les jeunes, les ados et même moi, adulte, j'ai énormément de mal aujourd'hui à me concentrer sur un livre. Je l'assume, je pense que les réseaux sociaux, cette habitude de scroller, d'avoir des notifs et tout, c'est hyper dur. Pardon ? C'est hyper dur, en fait, de me rester concentrée. Par contre, il y a des choses qui me happent. Moi, j'adore la BD, les mangas. Je sais que les jeunes adorent ça. Et je me suis dit, un des trucs que j'aimerais si je me lance, c'est avoir des illustrations partout. Du coup, voilà, c'est vraiment la réponse à ça. Ça a été pour le rendre le plus digeste possible. Mon cahier des charges pour Albin, c'était 200 illustrations. J'aurais dit, si vous me donnez pas un accord, j'écris pas. Je boude. Albin, m'écoute. En fait, je pense que c'est pour ça que c'est ma maison d'édition pour le deuxième. J'ai une éditrice. Je pense que c'est le moment de les saluer. C'est Aurélie Starkman, Eulali, Stéphanie, Sophie. Enfin, je suis entourée de meufs. C'est le même gang de meufs sur le premier et le deuxième. Et voilà, je trouve ça génial. D'ailleurs, en termes de puissance, tu vois, qu'on soit une, on est une demi-douzaine sur les deux livres, avec Juliette également à l'illustration. Voilà, et c'était pour moi hyper important. Je me suis dit, si une ado lambda n'a pas envie de se taper les pages, même ça, je me dis rien que je sais pas si vous voyez, les bandes dessinées de Stomy Buzzy qui a plein d'humour. Enfin, je pense que qui écrit avec un humour qui est le sien. Rien que les illustrations et les BD, rien que ça, aucun texte. Ça fait déjà avancer énormément. Et moi, je me suis dit, voilà, c'était ma manière de me dire, ça va.
J'avais une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, du coup, je l'en profite maintenant. Justement, tu parles des illustrations et tu as choisi comme personnage la forme de la colocation. Ouais. Je voulais savoir pourquoi. Voilà, pourquoi une colocation et pas une famille et pas un groupe de potes je ne sais pas, voilà.
C'est marrant, je suis incapable. D'abord, j'ai vécu en coloc, c'était génial. Je pense que déjà, voilà, le premier truc. Deuxième, en fait, j'ai voulu aussi. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé sur Orgasme et moi, c'est à quel point c'est de l'éducation populaire et participative. C'est-à-dire, il y a une vraie, et moi j'y crois, c'est-à-dire, c'est grâce aux témoignages des uns, des unes, des autres, qu'on commence à réfléchir, à déconstruire, à mettre à distance, à se rendre compte de ce qui se passe dans notre propre vie, et tout d'un coup, il y a des réflexions qui émergent, etc. Voilà. Et en fait, tous les témoignages que je reçois au quotidien sur Orgasme et moi, c'est à peu près 500 messages par jour. On est en moyenne à 3500 par semaine. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. En fait, tous ces messages qui peuvent être parfois simplement des réactions aux stories, parfois des smileys et parfois des pavés de je sais pas combien de mots. Mais ces persos, ces 7 persos, c'était pour moi une forme de... c'est la commu, en fait. Je me suis dit, si tu devais résumer la commu en 7 personnes, qui est-ce que tu mets dans ta colo? Voilà. Et pour moi, c'est à peu près une forme de représentation, une projection, en l'occurrence. Et tu vois, c'est marrant parce que du coup, je vais recevoir des messages de personnes qui vont me dire, alors moi, je suis Sylvie de ton livre. Sylvie, 50 ans, qui a subi sa sexualité par un crevard pendant des années, avec qui elle s'est mise en couple parce qu'il fallait se mettre en couple, avec qui elle a fait des gosses parce qu'il y en a, et qu'en fait, à un moment, il la jette évidemment pour, je sais pas si t'as écrit, mais c'était ça, à la base, le pitch. Il la jette pour sortir avec, tu vois, une jeunette et elle se retrouve à 50 piges. C'était ça, cette histoire de collègue. Elle se retrouve dans sa baraque, tu vois, avec ses enfants qui sont partis. Elle doit rembourser la baraque. Elle se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais faire venir des étudiants, étudiantes, des jeunes à la maison. Et c'est comme ça que, voilà, je vais pouvoir continuer à vivre dans ma maison. Et voilà. Donc c'était ça, à la base, c'était cette idée un peu plus globale, tu vois, qui est restée. Et Sylvie, en fait, elle vit au contact de ces jeunes qui sont incroyables. Elle est hyper moderne, en fait. Et tu vois, elle entend pour la première fois parler sextoy, et elle pose des questions un peu ingénues, et elle est en train de se découvrir à 50 ans, de prendre enfin, s'approprier son corps, son plaisir, son désir, de dire non à des crevards. Enfin, elle est en train, et ce persona de Sylvie, mais on n'imagine pas le nombre de milliers de Sylvie en réalité qu'il y a, même de millions peut-être dans ce pays. Et en fait, dans ma commune, elles sont très nombreuses, et donc elles adorent lire le livre et dire moi je suis Sylvie. Ça y est, ça, c'est une espèce de tu te reprends en main après suite à une rupture, tu découvres tout, quoi.
Et moi, j'ai une question, du coup, est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir sorti un livre en format papier, ça a touché un autre public que tu n'avais pas touché sur Instagram, d'autres retours que tu n'avais pas avant?
C'est compliqué, c'est encore jeune, donc okay. Je pense que j'ai pas le recul. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici en dédicace en me disant « je l'ai offert à telle personne qui n'était pas sur les réseaux ». Ou alors, effectivement, beaucoup de personnes l'offrent à leur filleule, leur neveu de 17, 18, 19 ans. Donc voilà, ça va forcément toucher des personnes qui, en tout cas, ne me suivent pas sur les réseaux. Et voilà, et des personnes qui, j'ai envie de dire, moi je suis arrivée tellement tardivement sur les réseaux et je comprends tellement les personnes. Je pense que franchement, si j'avais pas mon compte Instagram, première chose que je ferais, c'est désinstaller l'appli, parce qu'il y a des moments où ça fait juste du bien de pète sur les réseaux, de se reconnecter à autre chose. Donc voilà, au moins, y a le bouquin, ça, c'est cool aussi pour toutes ces personnes-là.
Est-ce que dans le public, il y a une aux personne qui a une question ? Une question ? Et petit rappel, quand on pose une question, c'est possible d'avoir le prénom et le pronom.
Moi je m'appelle Alexandre. Bonjour, merci d'être là. Et pronom bonjour. Il, pardon. On parlait du tabou autour de la sexualité au début de la conférence. Quel conseil tu donnerais justement pour amener le sujet avec des personnes de notre entourage ou autres ? On a souvent tendance à parler du travail quand ça va pas, etc. Mais moi je pense à mon frère, ma soeur par exemple, ou des cousins en jeune âge. Comment tu amènes le sujet ? Comment tu les incites à en parler finalement ? Parce que c'est un peu plus compliqué, mais t'as un lien avec l'intimité, etc., qui peut entraîner ce tabou derrière et rendre les choses plus difficiles à exprimer finalement.
Bah, peut-être. C'est hyper complexe comme question et ça va. Je sais pas si ça va répondre à ce que tu dis, mais moi quand j'interviens, généralement dans une classe, d'abord mon premier job c'est de faire rire la classe. Ce que je dis aux gens, c'est dans 3 minutes vous allez rire bêtement. Parce que le sujet, ça touche à l'intimité. Donc on s'entraîne à rire bêtement. Et la deuxième chose que je fais, c'est je vous rappelle que vous pouvez sortir à tout moment. Il y a une question de consentement, en fait, quand on parle de sujets qui ont trait à l'intimité, à la sexualité. Il y a plein de personnes pour qui ça peut être déjà très trigger, en fait. C'est-à-dire, tu sais pas ce que la personne a vécu avant, dans son enfance, dans sa vie actuelle. Donc ça me semble assez compliqué d'aborder le sujet, tu vois, de spontanément, sans être en réponse à une demande. Donc je pense que la première question à se poser, c'est ce que la personne que j'ai en face de moi a envie, en fait, qu'on parle de ce sujet. Et du coup, si je dois te donner un conseil, c'est peut-être peut-être juste dire, écoutez, j'ai un super bouquin sur le sujet. Moi, je l'ai trouvé génial. Et si vous avez des questions, ou si vous avez envie d'une bonne oreille, moi je peux juste être une oreille en fait. Juste si t'as envie de raconter, te confier, n'hésite pas à m'en parler. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et laisser traîner le bouquin, tu vois, il y a des parents. Alors plus pour les âges en dessous, il peut y avoir des enfants pour qui c'est compliqué que le sujet soit abordé. Il y a des parents qui me disent je l'ai laissé traîner aux toilettes. C'est un bouquin de chiottes. Et un jour, le bouquin, il disparaît des chiottes. C'est cool. Ouais. Yeah. Ah, c'est trop choupi.
Pourquoi vous avez fait ces livres?
Ah, c'est une très bonne question. Parce que j'avais envie de donner à chacun, chacune, quel que soit l'âge, aux enfants, aux parents, aux adultes, aux personnes âgées, à tout le monde en réalité, des clés. C'est un outil, un livre. Et en fait, il y a des fois dans la vie, t'as besoin d'outils pour... pour réparer ton vélo, pour apprendre à te nourrir, apprendre à mieux dormir. Et en réalité, il n'y avait pas d'outil qui existait qui était à mon sens suffisant pour juste apprendre l'intimité, le consentement, le fonctionnement du corps ou comment ou les premiers émois ou la communication entre les personnes sur toute la sphère amoureuse, romantique, sexuelle. Et donc pour moi c'était hyper important de créer un livre. Donc pour toi c'est un livre avec des questions d'enfants, et pour les grands qui sont autour de toi c'est des questions un peu plus de grands. En fait pour moi je voulais juste un livre où je donne des outils et chacun chacune est libre de les utiliser, de pas les utiliser, mais au moins ils sont là à ta disposition. Et voilà,
Est-ce que ça te va comme réponse?
Est-ce qu'il reste encore une question dans le public, une dernière? Ok.
Oui, du coup, mon prénom... Ça marche pas? Si, ça marche. Oui. Mon prénom, Louane, pronom elle. Tu dis que tu interviens dans les classes. Comment tu casses la glace avec les collégiens, lycéens? C'est quoi la technique? Est-ce qu'on okay. peut plagier?
Voilà. J'ai un peu, je me suis auto-spoilée, c'est tout ce qui est magnifique. Vraiment, un peu comme sur le conte. C'est-à-dire, le conte, ma spécialité, c'est que je parle de sujets hyper sérieux, voire dramatiques. Et puis, à un moment, il y a une blague que j'assume à 1000% parce que j'aime bien. Enfin, voilà, pour moi, l'humour, c'est un super... C'est un lien entre les individus. C'est un super une alliance pédagogique que j'adore. Et en classe, j'interviens généralement. Mon premier mot, c'est pour dire OK. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui?
Généralement, on entend oui.
Ils sont tous un peu en train de tirer la gueule, en train de regarder tout sauf moi. Je dis OK. Donc aujourd'hui, on va faire une séance d'éducation. Alors selon l'âge, à la vie affective, à la vie relationnelle sexuelle, et je vais vous la faire courte. Dans 2 secondes, vous allez être en train de rire, bêtement. Et c'est normal, parce qu'en fait, comme je vais vous parler de sujets qui sont intimes, comme diraient mes enfants, maman, t'es gênante. Voilà. Donc je vais être très, très gênante. Je vais être la meuf gênante dans 3 minutes. Et en fait, quand t'as quelqu'un de très gênant en face de toi, il y a un moyen en fait, de mettre à distance la gêne. C'est de rire. Le rire, c'est un super moyen de mettre la distance avec un truc qui te met mal à l'aise. Ok ? Donc c'est normal. Vous allez avoir envie de rire et c'est super ok. Par contre, c'est important. Quand on rit bêtement, il faut le faire bien. Ok ? Donc on va ensemble s'entraîner pour qu'on ait des rires bêtes, mais vraiment high quality. Ok ? High level. Alors on y va. Et généralement, je déroule toute une liste de mots. Sodo, sucé, fellation, cuni, etc. Enfin, tu vois, j'y vais, en fait, de tout mon vocabulaire. Tu vois, crado, tu vois, levrette, machin. Et en fait, il y a un moment, il craque. Il y en a un qui craque, tout le monde craque. On se met tous à rire bêtement. Et ça se finit. Bon, je laisse le truc un peu se calmer. Je fais, OK, c'était pas mal. Franchement, vous vous débrouillez pas mal. Je suis un peu déçue. Je pensais qu'on pouvait faire mieux. On peut faire mieux. Alors, on est reparti. Et j'ai ma deuxième liste de mots, tu vois. Et là, généralement, c'est bon. Là, ça part complet. Ce qui te permet. Donc là, généralement, ça, c'est le premier truc. Je dis, OK. Donc ça y est, vous maîtrisez le rire bête. Attention, hein, vous avez intérêt à maintenir les niveaux. Hein. Bon, maintenant que c'est maîtrisé, deuxième règle. Vous attendez que j'ai fini mes phrases pour rire bêtement. Parce que du coup, voilà, il faut que tout le monde puisse entendre la phrase. Voilà, ok, ça c'est le deuxième sujet. Troisième truc, maintenant j'ai besoin de votre aide. En fait, ça te permet également de rapidement voir en fait les regards vers qui on se tourne dans la classe pour savoir si on peut rigoler ou pas. En gros, t'as les faiseurs, faiseuses de rois qui ressortent très très rapidement. C'est ceux qui déclenchent ou pas. Ceux-là, tu les as chopés tout de suite, hein, même si tu connais pas la classe. Et tu dis, bonjour, comment tu t'appelles? Ok, Erwan, tu veux bien m'aider aujourd'hui? Ah super, ok. Bah tu peux aller au tableau. Et toi tu t'appelles comment? Mallory. Ok, Mallory, est-ce que tu veux bien m'aider aujourd'hui? Ah c'est super, tu les envoies au tableau. Et puis là je commence un jeu qui est simple, je fais un tour de classe. Et je dis, ok, et je fais, si je te dis sexe, tu me réponds quoi? Je te dis sexe, le premier mot qui te vient, etc. Et en fait, t'as déjà une espèce de nébuleuse, en fait, de constellation de tout ce que sexe représente ou vient, le premier mot qui te vient, avec des mots parfois chouette, parfois drôle, parfois problématique, parfois porno. Enfin, t'as tout, en fait, dans le truc. Et derrière, j'essaye d'adapter mon intervention parce que du coup, j'ai mes slides. Mais en tout cas, je pondère, en fait, mon temps en fonction de ce que j'ai eu au tableau à ce moment-là. Voilà. C'est un peu comme ça que je fais mes interventions.
On va devoir conclure malheureusement, mais en tout cas c'était une super riche rencontre et on te remercie vraiment pour le moment qu'on a passé ensemble.
Merci
et
à vous
d'avoir été présent et présente, bien sûr.
Merci.